Encore une fois, nous saluons l'Église du Dieu vivant cet après-midi dans le nom précieux de Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vous prie de vous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu.
Galates 4:28.
Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Que Dieu ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa parole. Nous avons dit hier que nous vivons un temps pas comme les autres. Quand nous chantons cette cité, elle a été chantée dans d'autres âges. Depuis ceux de l'âge d'Éphèse, ils espéraient aussi. Paul disait, nous les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne mourrons pas tous. Mais ils sont tous morts. Mais pour notre âge, en tout cas, nous sommes assuré que le Seigneur revient dans cet âge. Parce qu'après l'âge de la Odyssée, il n'y en a pas d'autre. C'est le dernier âge et nous sommes à la fin de l'âge. C'est pourquoi, mes chers frères, mes chères sœurs, nous venons régulièrement à ce lieu. C'est pour nous préparer à avoir accès dans cette cité-là. Nous sommes les enfants de la promesse, les élus de Dieu, et nous sommes destinés à la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu a ouvert sa pensée dans cet âge. Il nous a révélé tous les mystères. Les anges et les prophètes voulait désirer voir ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme il est écrit dans 1 Pierre, verset chapitre 1er, 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, ont fait de ce sujet, de ce salut, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en
suivrait.
Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient dispensateurs ou ministres de ces choses. Maintenant, ils vous ont été annoncés par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges désirent y plonger leur regard. Je vous ai dit hier, William Branham disait, si Dieu pouvait demander la vie de chaque messager, en quel temps, en quel âge il préférait t'envoyer comme messager, il aurait choisi l'âge, notre âge.
Parce
que c'est l'âge qui va se clôturer avec le retour du Seigneur. Et les prophètes désiraient voir, vivre ce que nous vivons déjà maintenant et ce que nous allons vivre bientôt avant même le retour du Seigneur. C'est-à-dire, Dieu nous a jugés dignes d'avoir part à son héritage. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7, il est écrit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
1
Corinthiens 2. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Et aucun des princes de ce siècle ne l'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Voyez, nous avons lu tantôt dans 1 Pierre, les prophètes, parce qu'ils n'ont pas vécu la mort de Christ. Donc, ils souhaitaient vivre, voir, après la mort de Christ, quelle est la gloire qui s'en suivrait. Et nous avons dit, hier, que la fin est toujours plus glorieuse que le commencement. Christ est venu dans l'humilité, mais il reviendra dans la gloire. Et oui, mes frères bien-aimés, les choses que nous entendons, que Dieu a révélées dans notre temps, ne viennent pas d'un séminaire. Nous avons la parole que nous entendons. C'est la pensée révélée de Dieu. Dieu n'a plus caché ce qu'il fallait pour la préparation de l'épouse. Donc, nous prêchons la sagesse de Dieu cachée, prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Verset 9, c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Cette parole, c'est une parole ointe. Vous ne la trouverez pas partout. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, nous croyons que quand Dieu nous appelle, il atteindra le but avec chacun de nous. Parce que la parole de Dieu, sortie de la bouche de Dieu, ne peut pas sortir sans pour autant produire son effet. C'est pourquoi, dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend doit venir de la prédication de Christ, la parole de
Christ,
pas la parole mélangée. Si elle est mélangée, si elle est teintée d'une interprétation, ce n'est plus la parole de
Christ,
c'est la parole de l'Antichrist. Et nous sommes très heureux, très reconnaissants au Seigneur, parce que nous sommes de ceux-là qui écoutons la parole pure. Aucune interprétation n'a pas de place dans les cœurs des
élus.
C'est pourquoi on ne peut pas supporter une moindre interprétation. Et n'a pas de place. La prédication, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend doit être la parole de
Christ.
Donc la véritable prédication de la parole pure suscite la foi. Vous ne pouvez pas avoir la foi en dehors de la prédication de la parole de vérité. Et la foi véritable conduit toujours aux expériences que Dieu a prévues dans sa parole. Quand Quand on vous prêche la repentance, c'est pour que ceux qui ne se sont pas repentis se repentent. Quand on prêche le baptême, c'est pour que ceux qui sont destinés au salut soient baptisés. Parce qu'il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu ne peux pas dire que tu crois et tu refuses le baptême biblique. Et le baptême biblique, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas de foi sans obéissance. On ne peut pas séparer la foi véritable de l'obéissance. Celui qui dit qu'il croit, il doit obéir. Croire, c'est obéir à ce que Dieu dit. On ne peut pas croire, on dit on croit, mais on rejette ce que Dieu dit. Ça, c'est la foi des démons. Alléluia. La foi véritable, la foi de l'épouse, elle est toujours liée à l'obéissance. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 1, verset 5, il dit qu'il a été appelé comme apôtre pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Et dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Voyez, c'est en obéissant à la vérité que nous sommes purifiés, sanctifiés. Donc le chemin de l'Église, le chemin du croyant, passe par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit pour que l'œuvre de la grâce soit manifestée dans votre vie. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est en vue de l'achèvement. Parce que Dieu va achever son œuvre. Et quand l'œuvre de Dieu est achevée, ici sur la terre, Dieu vient prendre l'Église. C'est l'enlèvement. Mais il faut passer par tous ces stades. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas court-circuiter. Justification. Sanctification au baptême du Saint-Esprit. Oui. Pourquoi cela? Parce que nous sommes nés pécheurs. Le salut a été l'affaire de Dieu. Et c'est pourquoi nous ne pouvions pas nous justifier par nous-mêmes. Il a fallu que lui, Dieu, vienne trouver la solution, régler la question du péché. C'est pourquoi Dieu est devenu un homme en Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il est écrit, lui, qui ne connaissait pas le péché, qui n'était pas péché, il l'a fait devenir péché. Pourquoi? Pour notre justification. Lisons un peu ce verset-là. 2 Corinthiens 5. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Il a porté nos péchés dans son corps de chair afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous n'avons pas la justice par nos œuvres. La justice, c'est un don gratuit de Dieu. Qu'il donne à celui qui croit. Qui accepte que le Dieu a quitté le ciel. Il est devenu semblable à nous. Il a porté nos péchés dans son corps. Pour que nous qui croyons en cette œuvre-là, croire que notre Seigneur a pris notre place, lui le juste, lui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché. Quand il criait, Eloi, Eloi, comment nous disons bien, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné, moi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. À ce moment-là, précis, quand il a accepté de porter tes péchés et mes péchés dans son corps, Dieu saint est sorti de ce corps. Dieu devait l'abandonner. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Et tout ça à cause de moi et de toi. Afin que nous soyons comptés pour juste. Et les élus, les véritables croyants, doivent croire comme disent les Écritures. C'est-à-dire, nos péchés ont été pleinement pardonné. Ce jour-là au calvaire, c'était un grand jour. Tous les démons étaient là. Avec leur patron, le diable. Parce que c'est eux-là qui nous accusaient. Et les accusations étaient vraies. Nous avons commis des péchés. Mais ce jour-là, cette grande question du péché a été réglée par le Seigneur. Si vous lisez dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il est écrit qu'il a effacé l'acte qui subsistait contre nous. L'acte des ordonnances qui nous condamnait. Il a effacé. Non seulement il a effacé, mais il l'a détruit. Il l'a détruit. Et ce que Dieu a détruit, personne ne peut le reconstituer. Nos péchés ont été pardonnés. Dieu ne s'en souvient même pas. Il nous prend pour des justes. Ça, c'est la foi des élus. Croire que vos péchés sont pardonnés. David disait, heureux l'homme pour qui Dieu, à qui Dieu n'impute point le péché. Ce n'était pas David. C'était le Saint-Esprit en David. Sois aussi heureux que Dieu ne t'impute pas le péché que tu as
fait.
Alléluia. Ça, c'est la justification. Nous sommes comptés pour justes. Nous sommes régénérés. Mais nous devons être sanctifiés. Nous sommes justes, mais nous devons être sanctifiés. C'est le chemin obligé. Il ne faut pas chercher votre chemin
à vous.
Jean 17, 17. Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Voilà pourquoi, dans l'église épouse, il n'est pas toléré la moindre interprétation. Il faut que ce soit la vérité. Pour être sanctifié, il faut la vérité. Aujourd'hui, quelqu'un qui pense qu'il y a des sorciers qui mangent les gens, qui donne des maladies, alors que de la Genèse à l'Apocalypse, aucun verset de la Bible ne le dit. Nous ne sommes pas les prédicateurs des citations de William Branham. Nous sommes les prédicateurs de la parole de Dieu. Et la Bible demeure l'absolu de William Branham et notre absolu. Quelqu'un qui croit de telles choses, il n'est pas sanctifié. Parce qu'il croit des mensonges. Il n'y a que la parole de vérité seule qui sanctifie. Amen. Oui. Ça, c'est le chemin du croyant. Dans 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre 1. Sûrement, nous serons dans cette cité-là. Parce que le Seigneur nous a ouvert sa pensée. Verset 1. Pierre rapporte de Jésus-Christ. Aux élus.
Amen.
Je ne m'adresse pas à tout le monde. Pierre s'adressait aux élus.
Amen.
Qui sont étrangers, qui étaient répandus dans la dispersion. Et ici, je m'adresse aux élus qui sont à Lubumbashi. Verset 2. Élus selon la préscience de Dieu le Père. Par la sanctification de l'Esprit. Pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voyez, élus selon la préscience de Dieu. Les élus, comme tu l'as dit tout à l'heure, mon frère, par le Saint-Esprit, ne sont pas élus aujourd'hui quand ils sont baptisés. Non. Les choses, Dieu ne régularise rien au cours du temps. Les élus le sont avant la fondation du monde. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas ici par hasard. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la place pour le hasard, il n'y en a pas. Même le fait que je prêche ce soir, Dieu connaissait. Moi, je ne connaissais pas, mais Dieu connaissait. Parce que nous sommes son église. Nous sommes son domaine. C'est lui qui fait toutes choses. C'est pourquoi dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de tiraillement.
Non.
Nous regardons ce que Dieu fait. Dieu a placé tel. Nous disons gloire à Dieu. Parce que Dieu l'a vu là. Non, lui, non, c'est moi. Non, ça c'est le diable. Pourquoi tu as été marié par ce frère-là, alors qu'il y avait des riches qui t'avaient suivi, tu as refusé. Peut-être ce frère n'a pas beaucoup de moyens. Parce que Dieu t'a prédestiné à aller habiter dans cette cité. C'est un moyen utilisé par Dieu. Pourquoi tu n'es pas né dans telle famille ou telle autre? Pourquoi tu as eu un ami qui croit ce message et qui t'a amené à ce message? Tout ça, Dieu avait déjà prédestiné. Voyez. Oui. 1
Thessaloniciens 4.
On va faire la course dans les 20 minutes. 1 Thessaloniciens chapitre
4,
verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Non seulement nous sommes justifiés, mais nous sommes appelés à la sanctification. Et nous n'avons pas notre propre sanctification. La sanctification, ce n'est pas l'obéissance à la parole de Dieu. Amen.
Amen.
Vous pouvez lire, il y a beaucoup de passages, beaucoup de... Mais nous prenons par-ci, par-là. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau pour montrer que dans cette personne, cette femme ou cet homme, mon œuvre est accomplie. Il est candidat maintenant à l'achèvement et à l'enlèvement. Le sceau du Saint-Esprit. Ephésiens 1, verset 13. Ça, c'est le chemin du croyant. Mais nous devons être sanctifiés. L'impureté, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ce message, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est un appel à sortir et à nous séparer de tout ce qui est impur. Et Dieu a mis ce désir dans chaque élu. Amen.
Amen.
C'est un message, le dernier message que nous avons reçu,
message
d'appel à sortir, d'appel à la séparation, à la préparation. Verset 13, Ephésiens 1. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est pourquoi, dans Hébreux 5, 7, Dieu accorde le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Écoutez-moi, mes frères et mes sœurs. Nous ne venons pas ici seulement pour fraterniser. Non. Nous avons un objectif. Bientôt, Dieu va achever son œuvre. Comme nous le verrons bien dimanche,
si
telle est la volonté de Dieu. Mais il faut participer à l'achèvement. Il
ne
faut pas venir ici faire plaisir au pasteur ou
au
frère, au diacre, ou vous venez ici comme dans une nouvelle religion. Ici, ce n'est pas une nouvelle religion. Ici, nous sommes ici en vertu de la promesse de Dieu. Bientôt le Seigneur revient. Et nous devons faire toutes les expériences du salut. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, voyez, l'accent est mis sur la parole de vérité. On vous montre la vérité. Vous refusez la vérité. Vous n'êtes pas sanctifié. Et puis, vous mettez l'obstacle sur le chemin du ciel. L'incrédulité vous éloigne toujours de Dieu. C'est la foi qui nous met en contact avec Dieu. Vous connaissez ces deux paires de souliers, l'incrédulité et la désobéissance marchent ensemble. La foi et l'obéissance marchent aussi ensemble.
Inséparable.
Voyez. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit, c'est la promesse de notre Père. Quiconque croit de la manière juste, qui croit comme les Écritures
disent,
Dieu est obligé, parce que Dieu tient sa parole, il tient sa promesse, il vous baptise de son esprit. Il n'y a pas un prédicateur qui peut vous donner le
Saint-Esprit.
C'est Dieu seul. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau.
Mais
lui, il vous baptise de feu et d'esprit. L'esprit qui va brûler la langue. La langue de critique. Pour qu'elle soit une langue qui loue Dieu. Une langue consacrée. Pas une langue de critique. Amen.
Amen.
Et ça, il faut que Dieu lui-même le fasse. Et ce désir est dans chaque élu. Et Dieu le fait. Dans Acte 2, 38, il a dit, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, nous sommes ici, chaque élu doit être baptisé du Saint-Esprit. C'est ça. La réponse de Dieu à notre foi, c'est le baptême du Saint-Esprit. Romains 8. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Chaque élu doit être soucieux de cela. Sans le Saint-Esprit, on vous met dans la tombe, vous n'allez pas participer à la première résurrection. Donc nous venons ici, mes frères et sœurs, pour que Dieu nous baptise de son Esprit. Et quiconque le demande, Dieu n'est pas égoïste. C'est la promesse faite à ses enfants. Les enfants de la promesse croient la parole promise de leur temps et ils reçoivent l'esprit promis. C'est pourquoi être enfant de la promesse, c'est une catégorie différente de tous les adorateurs. Jésus a dit dans Jean 4 à la femme samaritaine, l'heure est venue. Et l'heure est déjà là. Dieu a besoin de véritables adorateurs. Parce que le véritable adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Donc, le Saint-Esprit, c'est ce que chacun de nous doit poursuivre. Il y en a qui sont déjà scellés du Saint-Esprit. Celui qui demeure dans la vie de péché, qui ne veut pas abandonner cette vie, il peut être scellé du Saint-Esprit. Même s'il vient ici, il
ne
va pas. Non, parce qu'il y en a qui seront vivants au retour du Seigneur, qui ne seront pas morts. Ceux qui ont le gage, les prémices de l'esprit, ils vont connaître la transmutation des corps. Et ceux qui seront dans la tombe, qui ont le Saint-Esprit, dont leurs corps seront dans la tombe, vont ressusciter avec des corps de résurrection. C'est pourquoi chacun doit être soucieux de mettre sa vie, de l'accorder avec la parole de Dieu. Et ça, c'est la caractéristique des élus. Ils sont comme Jacob. Le droit de naître, c'était un souci pour lui. C'était sa préoccupation. Tandis qu'Ésaü, profane qu'il était, il ne savait pas que l'héritage est attaché au droit de naître. L'élu doit se dire à tout moment. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, en tout cas, je vais rester. Je n'irai pas dans cette cité. Et ça doit être un souci. Fais pas me parle de d'un homme Robinson qui avait prié pour avoir le baptême du Saint-Esprit. C'était une préoccupation comme Jacob. En disant, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, tu viendras trouver mes os ici. C'est cette détermination-là. Ça ne veut pas dire que vous devez aller aussi en brousse pour avoir le Saint-Esprit. Non. Voyez la parole de vérité. Amen.
Amen.
Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Nous nous adressons aux enfants de la promesse. Les promesses de ce temps, c'est pour eux. C'est vrai que ce message, en tant qu'appel à sortir, a touché aussi les vierges folles. Mais les vierges folles vont rester. Parce que eux, la différence entre les vierges folles et les vierges sages de Matthieu 25, c'est que les vierges sages prennent au sérieux leur préparation. La vierge folle est négligente. Elle est limitée. Et la vierge sage a la révélation actuelle. Elle est baptisée du Saint-Esprit. La Vierge folle va se réveiller à la fin. Mais ce sera trop tard. 1, 2 Thessaloniciens
2.
Je lis un seul verset, le
13e.
Quant à nous, frères, bien-aimés par le Seigneur, j'espère que vous êtes des bien-aimés du Seigneur. Nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet. Car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Et Dieu met ça dans chaque élu. Nous ne sommes pas choisis pour rien. L'élection n'a rien d'arbitraire. Déjà depuis l'éternité, Dieu nous a vus tous. Il a vu qui accepterait la proposition du salut de Dieu.
Amen.
Et celui qui croirait, et il l'a choisi. Il a fait, il nous a choisi avant la fondation du monde. Et celui qui ne croirait pas, Dieu ne l'a pas choisi. Il ne l'a pas élu. C'est par notre libre arbitre. Dieu avait déjà vu ça. Ephésiens
1.
Et ce sont des vérités bibliques. Verset 1. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et sans défaut devant lui. Amen.
Amen.
Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, à être ses enfants d'adoption, ses héritiers, selon le dessein bienveillant de sa volonté. Les choses ne se font pas aujourd'hui. Les choses étaient déjà planifiées
dans l'éternité. C'est pourquoi aujourd'hui je me regarde, je vois ce que Dieu avait planifié dans l'éternité. Je dis, je suis un élu. Pourquoi moi je crois ce message? Pourquoi Dieu a mis en moi l'amour de la parole? Pourquoi Dieu a mis en moi le désir? Même si je bronche, mais comme il est écrit, le juste tombe, cette fois il se relève. Mon cœur penche toujours vers la parole. Comme David disait, incline mon cœur vers tes préceptes. Tout véritable élu, quand la parole de Dieu lui est présentée, l'élu s'incline devant la parole. Aujourd'hui, vous trouvez des personnes. À moi, cette femme, je ne la veux pas. Frère, regardez, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah, mais mon cœur ne veut pas. Mais ton cœur te trompe. Amen. Nous ne sommes pas ici pour suivre les voies de nos cœurs. Nous sommes ici pour plier notre volonté à la volonté de Dieu.
Amen.
C'est pour ça que Dieu nous a choisis.
Vous
voyez. Et pour être héritier, enfant adoptif, héritier,
vous
voyez, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc nous sommes élus pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Dans Romains 9, c'est-à-dire chacun doit comparer sa vie avec les critères de la Bible. Nous ne connaissons pas cette élection-là où la personne fait tout ce qu'il veut en disant, mais je suis élu. Non. Un élu, c'est souci de la parole de Dieu. Un élu, c'est celui qui désire que Dieu fasse tout ce qui lui est agréable. Qu'il soit aussi, comme Dieu avait dit à Christ, le jour du baptême, ou même à la montagne de la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai le plaisir de demeurer. Donc le souci de chaque élu, que je sois l'habitation de Dieu. C'est pour ça que ce message a été envoyé. C'est pour que nous devenions le temple de Dieu. Et pour être le temple de Dieu, nous devons nous séparer de toute chose qui n'est pas la parole. Il est l'heure, je respecte l'ordre. Levons-nous pour la prière. Mon frère Katembo, prenez la direction.